Bonjour à tous, vous écoutez Calade et vous avez bien raison. Au sommaire de notre édition, Mundia Kebanga est chef de tribu des Ulis en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais aussi l'ambassadeur de la forêt papoue. Il sillonne le monde pour pousser son cri d'alerte d'une exploitation outrancière de la forêt, la déforestation. Il est également l'émissaire d'un film documentaire, Frères des arbres, entretien avec celui-ci. Puis, dans le cadre de la journée de lutte contre le cancer de l'ovaire, nous recevons le docteur Claire Chopard-Lallier, chirurgien gynécologue-oncologue, et le docteur Fortuné Ouessou, chirurgien gynécologue chef de service de l'hôpital Nord-Ouest, à l'initiative d'une journée de sensibilisation sur le cancer de l'ovaire, le 7 mai prochain. Et pour conclure, carnet de voyage pour le trio écrivain, musicien et documentariste en Haut-Beaujolais suite à une immersion l'an passé sur le projet Ça coule de source que nous explique l'auteur ethnologue Jean-Yves Lutte. Calade, le journal. Le serpent jaune s'ébroue devant la tour Montparnasse à Paris et commence à avancer sans attendre le coup de sifflet officiel prévu à 14h30 ce mercredi 1er mai pour Libération. Il est à peine midi quand il se meut lentement sur le boulevard en dépit des instructions des syndicats. Les gilets jaunes semblent déterminés à montrer qu'ils donneront le ton de la journée. Ce 1er mai s'impose surtout comme la fédération de tous les mécontentements, le symbole de l'opposition au pouvoir. Il y a donc des gilets jaunes, particulièrement hérissés par la faiblesse des annonces présidentielles du 25 avril, mais aussi des étudiants, des syndicalistes, des écologistes et des militants radicaux. La fête du travail dans un contexte de crise sociale. 164 500 personnes ont défilé en France ce 1er mai, et qui marque également la date anniversaire du début des affaires Benalla, nous confie le journal Le Monde et AFP. De nombreux manifestants sont donc venus affublés d'un masque, reprenant le visage d'Alexandre Benalla et des organisations appelées à constituer un Benalla bloc. Mais des rassemblements dans le monde entier, pour le Figaro, en Grèce, Malaisie, Turquie ou encore en Russie, des manifestants sont descendus dans les rues pour célébrer la fête du travail et clamer leurs revendications. Dans le reste du monde, donc, de nombreux travailleurs ont eux aussi défilé dans les rues à l'occasion de la fête du travail. Si certaines manifestations se sont déroulées dans le calme, d'autres ont donné lieu à des arrestations musclées. À Hong Kong, des travailleurs arborant un casque de chantier jaune sont descendus dans la rue. Taïwan et Corée du Sud, des manifestants réclament plus de droits pour les travailleurs. Plus de 80 personnes qui tentaient pour la plupart de rejoindre l'emblématique place Taksim à Istanbul ont été arrêtées ce mercredi en Turquie. Chaud le joli mois de mai. Mundia Kebanga, un chef de la tribu des Ulis, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, est l'ambassadeur et la voix de la forêt papoue, forêt primaire et réservoir de biodiversité. Dans un grand élan de sagesse, il sillonne le monde pour pousser son cri d'alerte d'une exploitation outrancière de la forêt. De passage en Calade, il répondait à l'invitation de la cité scolaire Claude Bernard ainsi qu'à la médiathèque pour une rencontre autour du film documentaire au cinéma Les 400 coups, Frères des arbres, réalisé par Marc Dozier et Luc Maresco. Il joue le rôle de l'émissaire afin de dévoiler l'ampleur de la déforestation. Entretien avec celui-ci, le réalisateur Marc Dozier en assure la traduction.
Je m'appelle Mudije Kepanga, je suis un papou de la tribu des Ulis en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Na Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Miplaga, 23 provinces, na 804 tokbles.
Dans mon pays, il y a plus de 800 tribus différentes et 800 langues. Et moi, je fais partie de l'une d'entre elles. J'ai réalisé un film qui s'appelle « Frères des arbres » et qui est basé sur une légende de mes ancêtres.
Awesome. Orgadaman lo kandri orkarim wari happy wari kamad lo plus bro kandrim bro na mi tu karim happy wari kam lo kandrim bro mi karim kam na mi bra story lo hap na disra time mi sadim na makim disla movie am kan os a message bro you mi stop in shadow one bro wall.
Mes ancêtres nous ont appris que les hommes sont les frères des arbres. Si tous les arbres disparaissent, les hommes vont disparaître à leur tour. C'est le message que je veux partager avec l'humanité tout entière. Lorsque j'ai participé à la COP21, j'étais invité afin de témoigner sur les problématiques du réchauffement climatique dans mon pays, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et j'ai tenu à partager ce message. Il est essentiel que nous prenions soin des forêts primaires du globe pour l'humanité tout entière, car ce sont des monuments, c'est un patrimoine qui appartient à l'humanité tout entière.
Non, you blow what people does all make him can something, you plus make him balu sem fly your sky, you plus make him train, long plus train, you plus walk him, TV or computer or telephone, you plus make him na weather season blow, for season, and you plus make him one something up tomorrow. On next week come long and I'm you plus our study or got something meeting you bra me that come kiss him either you bra na come you probably got Sundays too meeting you plus our total one damn net yeah meeting him or some nami come now okay you bring give him cause some nami me ask him more or something.
Je leur ai dit, vous savez, vous les Blancs, vous avez inventé des ordinateurs, des avions, des trains très longs. Vous êtes capables de faire toutes sortes de choses. Vous êtes même capables de prédire le climat du lendemain. Alors, ce n'est pas à moi qu'il faut demander ce qu'il faut faire pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est à vous, à vos propres scientifiques, de trouver les solutions à vos propres problèmes. Moi, la seule chose que je sache, c'est qu'il faut que nous prenions soin de la nature. Si nous prenons soin de la nature, elle prendra soin de nous en retour.
Partout à travers mon pays, l'environnement est menacé. Chez moi, personne ne sait ce que devient notre bois.
Sa parole, sa philosophie de vie et ses connaissances de la nature, du chef de la tribu des Oulis en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mundia Kebanga, lance au monde un message d'alerte sur les dangers qui nous guettent. Et nous rappelle que nous sommes tous frères des arbres. Parce qu'un cancer de l'ovaire dépisté au stade précoce est plus facile à soigner qu'au stade tardif, la prévention est de mise pour le service gynécologique de l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche, qui, dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le cancer de l'ovaire, s'associe à l'événement le mardi 7 mai prochain. Avec nous, le docteur Claire Chopard-Lallier, chirurgien gynécologue-oncologue, et le docteur Fortuné Ossou, chirurgien gynécologue chef de service de l'hôpital Nord-Ouest. On les écoute tous deux.
Alors, la chirurgie cancérologique est une chirurgie extrêmement codifiée. On est en partenariat étroit avec le centre Lyon-Bérard. Les indications chirurgicales, les traitements et les prises en charge sont validés en réunion de concertation de cancérologie. Réunion qui se passe une fois par semaine avec les chirurgiens de l'hôpital, les oncologues, donc qui sont les chimiothérapeutes, les radiothérapeutes et les radiologues. Nous travaillons avec le centre Lyon-Bérard. Les oncologues ainsi que les radiothérapeutes travaillent à mi-temps au centre Lyon-Bérard et chez nous. Et les réunions sont validées de manière collégiale.
Je suis docteur Wissou, chirurgien gynécologue, donc chef de service à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône.
Donc on a vu que c'est effectivement très très réglementé en tous les cas, et notamment sur le quota d'opérations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Il faut savoir que pour opérer un cancer du sein, un centre hospitalier doit faire un seuil d'au moins 20 cancers, au moins 20 cancers d'ovaire et au moins 30 cancers du sein. Donc c'est un seuil qui est fixé au niveau national. Et voilà, il faut qu'on s'y tienne, quoi.
Pour avoir un agrément, hein.
Pour avoir un agrément, tout à fait.
Et puis, à savoir également, et ça on le sait peut-être moins, voilà, la prise en charge est la même dans tous les établissements, hein, que l'on peut expliquer effectivement. Hein.
Oui, tout à fait, puisqu'il y a des réunions de concertation, il y a des référentiels qu'on doit suivre, qu'on soit à Lyon, à Montpellier ou à Nantes, il y a un référentiel que toute réunion de consultation doit suivre pour la prise en charge de toutes les patientes.
Donc ça, c'est un gage de, comment dirais-je, de prévention, en fait, plus particulièrement, comment on peut le dire ?
C'est plutôt un gage de prévention, de qualité et de sécurité. Donc on est sûr que les patientes ont toutes les mêmes qualités de soins dans toute la France. Voilà.
Donc une journée particulière le 7 mai.
Donc c'est une journée sur le cancer de l'ovaire, qui est un cancer extrêmement rare, plutôt rare, par rapport évidemment au cancer du sein, qui est un cancer plus fréquent. C'est une journée de sensibilisation, puisque le cancer de l'ovaire n'a pas de dépistage organisé propre, et que très souvent, malheureusement, le cancer de l'ovaire est dépisté à un stade tardif. Le pronostic de ce dépistage au stade tardif est mauvais. Nous tenons aujourd'hui, le 7 mai, à sensibiliser les femmes d'avoir un suivi gynécologique régulier pour éviter des dépistages tardifs.
Alors, en quoi effectivement ce dépistage est-il difficile ?
Le dépistage est assez difficile parce que les symptômes dans ce genre de cancer apparaissent assez tard. Donc, dans trois cas des cas, le cancer de l'ovaire est dépisté à un stade très tardif. Donc, on peut jouer sur les patientes qui ont des antécédents familiaux de cancer du sein ou de cancer d'ovaire dans leur famille, qu'elles viennent nous voir, qu'elles consultent pour avoir plus de renseignements, pour qu'on puisse les sensibiliser.
C'est vrai qu'il y a, il y a plusieurs cas. Il faut toujours revenir à ses antécédents familiaux et à son contexte de vie. Évidemment, les patientes qui ont des antécédents familiaux, que ce soit des cancers du sein ou de l'ovaire ou même de l'utérus, ont un suivi gynécologique à avoir plus important et peut-être plus régulier. Il n'empêche que les patientes sans aucun suivi ont un suivi gynécologique recommandé, à savoir un frottis tous les 3 ans, une mammographie entre 50 et 75 ans tous les 2 ans, et au-delà de ça, un suivi avec un examen gynécologique, si possible annuel, par un professionnel de santé.
On peut peut-être parler effectivement pour le cancer des ovaires, les symptômes peut-être qui sont détectables en quelque sorte.
Il faut savoir qu'il n'y a pas de symptômes spécifiques propres au cancer d'ovaire, mais toute femme qui a des signes d'occlusion digestive, des douleurs abdominales, des signes de phlébite, une baisse de son état général, un amaigrissement frappant, rapide. Il faudrait qu'elle consulte assez rapidement son médecin traitant ou son gynécologue traitant.
Un conseil effectivement de consultation, effectivement, parce que chez les femmes, toutes ne viennent pas forcément à un certain âge également consulter. Hein, c'est bien ça, et c'est aussi une façon de marteler un petit peu cette journée du 7 mai, de venir s'informer.
Oui, tout à fait. Nous, on constate dans notre pratique qu'on a des patientes extrêmement rigoureuses avec un suivi annuel bien précis et que beaucoup de patientes ne sont pas de la même, rigueur, et qu'à partir notamment de 70 ans, le suivi est beaucoup plus aléatoire, même inexistant, avec des découvertes de cancer du sein, du col ou de l'ovaire beaucoup plus tardives. Et donc c'est vrai que nous martelons l'information de la prévention, et c'est vrai qu'un cancer, quel qu'il soit, dépisté au stade précoce, est beaucoup plus facile à soigner qu'un cancer tardif.
Journée mondiale du cancer de l'ovaire le mardi 7 mai prochain. De 10h à 16h, ne manquez pas de vous sensibiliser ou de vous informer au stand à l'espace patient-visiteur en présence de médecins à l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche, ouvert à tous. Et pour conclure cette édition, restitution du carnet de voyage pour le trio écrivain, globetrotteur, musicien et réalisateur, documentariste en Haut-Beaujolais, suite à une immersion l'an passé des protagonistes sur le projet « Ça coule de source », que nous explique tout de suite Jean-Yves Loude, auteur ethnologue. Ils raviront l'une des soirées du festival en Beaujolais Continents et Cultures très prochainement.
Alors, cette année, c'est un récit de voyage. Le Haut-Beaujolais, expédition de 3 artistes en Haut-Beaujolais, c'était le travail de l'année dernière. Dans le cadre de l'expédition « Ça coule de source », Bruno-Michel Abati, musicien, Philippe Prudent, cinéaste, et moi-même, Jean-Yves Loude, écrivain. On nous a demandé d'explorer le Haut-Beaujolais, qui pourrait s'écrire H-A-U-T ou E-A-U, le Beaujolais de l'eau, le réservoir de l'eau, le château d'eau, en comparaison avec le Beaujolais du vin et de la plaine. Donc pendant 15 jours en 2018, nous avons arpenté 6 communes de montagne, de Julliers, Poulez-et-Charmeaux, Propierre, Montsol, Saint-Bonnet-des-Bruyères et Beaujeu. Et pendant 15 jours, nous avons pris la parole des gens, les témoignages sur l'eau, nous avons écouté les sons, nous avons donné des spectacles, et en fait, cette année, le 5 juillet à Montsol, c'est la restitution de 3 créations qui vont se retrouver sur scène du trio.
retrouver l'écrivain globetrotteur Jean-Yves Loud ou encore le musicien et compositeur Bruno-Michel Abati et Philippe Prudent, documentariste. Une restitution d'un récit né du trio écrivain globetrotteur, musicien et réalisateur en Haut-Beaujolais l'an passé sur le projet « Ça coule de source ». Le vendredi 5 juillet, à Montsol, à 20h, salle Fontalet, un beau moment de partage culturel du patrimoine. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu. Notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.